je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous combles ce matin par nos échanges, par nos regards, par nos lectures, par nos partages. Je sais, Seigneur, que tu as déjà parlé à nos cœurs, par mes frères et mes sœurs. Nous voilà devant ta parole, une méditation tellement faible, tellement subjective, et je te prie de la sanctifier, de la nettoyer, de la purifier, pour que mes frères et sœurs ne reçoivent que ce qui vient de toi, et tu mets de côté tout ce qui vient de l'orateur. À travers notre partage, Seigneur, je te prie de parler à mon cœur, moi le premier, et que nous puissions sortir de ce rassemblement avec un cœur joyeux, transformé, armé pour toute la semaine, et ainsi nous retrouver dimanche prochain pour partager le parcours. Encore merci et que ta volonté se fasse. En ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons pris la décision d'étudier d'une manière progressive l'évangile selon Marc. Et nous sommes au chapitre 4. Et normalement, je dis bien normalement, j'aurais dû préparer une étude, une méditation sur le passage qui nous concerne, c'est-à-dire chapitre 4, Marc 4, du verset 26 jusqu'à la fin de ce chapitre, où il est question de semences, il est question de grains de sénevé. Pour qu'il puisse porter des fruits, il faut le mettre sous terre. Il faut d'abord le mettre sous terre pour qu'il porte des fruits. Sinon, il n'y a pas de fruits. Jusqu'à maintenant, nous avons partagé ensemble et on a dit un chrétien doit porter des fruits. Si un chrétien ne porte pas de fruits, nous avons la légitimité, l'obligation de se poser des questions. Un chrétien qui ne porte pas de fruits, il y a un problème. Puisque nous avons une nouvelle vie en nous. Et cette nouvelle vie, c'est Christ, et Christ doit porter des fruits autour de nous. Si nous ne nous apportons pas la paix autour de nous, il y a un problème, mes frères et sœurs. Si l'Église n'est pas une Église de paix dans le monde et qui dénonce toutes les guerres et ne justifie aucune guerre, c'est qu'on n'a pas de fruits. Je suis tellement étonné aujourd'hui d'entendre des voix qui viennent des milieux chrétiens et qui justifient des guerres. C'est à pleurer. Le Seigneur lui-même a donné l'exemple. Il s'est laissé crucifier. Comme une brebis qu'on emmène à la boucherie. Et nous a montré l'Église ne peut pas être autrement qu'une Église de paix. Aucune guerre ne peut être justifiée. Et dans ce passage-là, il est question d'un grain de moutarde ou un grain de sénevé qu'on plante, et si on ne le plante pas, il ne porte pas de fruits. Il est dit, ce petit grain, c'est le plus petit des grains, des graines. Quand on le plante, on attend un petit peu, il est arrosé, hop, il sort, épi, et qui nourrit les oiseaux et tous les autres. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que si nous voulons être ce grain de blé qui porte des fruits, nous devons passer par l'œuvre de la croix. Une vie chrétienne où la croix n'est pas au centre, ça peut être qu'une vie chrétienne de façade. À la moindre épreuve, on chute, non seulement chuterait, mais on peut même se retourner contre celui qui est notre sauveur. Et nous avons la chance d'être ici, plusieurs venant de cultures différentes, et nous savons ce que ça veut dire payer le prix. Entre nos frères, j'aime bien ce qu'ils ont dit la dernière fois, 20 ans de travail dans leur pays, en Iran. 20 ans de travail, maison de ce qu'on veut, La seule chose qu'ils ont pris avec eux pour partir, c'est 4 valises. Et nous, nous continuons à nous plaindre, même au milieu de l'église. Ma propre famille m'a rejeté, moi et mon frère. Et voilà maintenant plus de 8 ans que je n'ai vu ni ma mère ni mon père. Il faut payer le prix. Je peux le retourner, le voir, à condition que je retourne à ma religion d'origine. Il faut payer le prix. Ici, en France, si on vous rejette, si on vous insulte, si on se moque de vous, soyez heureux. Parce que c'est le prix à payer. Celui qui nous présente la vie chrétienne comme un long chemin tranquille, c'est quoi cette personne n'a rien compris. Être chrétien, il faut payer le prix. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, vous voyez, je vais utiliser quelque chose, il vaut mieux abandonner. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où il y a une épreuve et nous ne sommes pas prêts, on est capable de se retourner contre celui qui nous a sauvés. C'est pour ça que nous avons besoin de cette croix. Et cette croix dans notre vie, elle nous prépare pour traverser les épreuves et laisser le Christ jaillir à travers notre témoignage. Et c'est le message du grain de sève, grain de blé. Il faut qu'il passe par la mort, la croix, pour porter des fruits. Alors, dans mes lectures, je suis tombé sur un texte d'un homme de Dieu que vous connaissez, je vous conseille de lire, parce qu'il a vécu l'épreuve jusqu'à l'enfermement. Il a vécu l'emprisonnement. Il a passé le restant de sa vie en prison, il est mort en prison. Cet homme de Dieu s'appelle Watchman Nee. Peut-être que vous avez entendu parler. Il est né au début du XXe siècle, il est décédé en 1972, il est parti aux États-Unis pour étudier. Il a eu son diplôme, mais quand il était sur le retour, il le raconte lui-même, sur le bateau, il a pris une décision radicale. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son diplôme, vous voyez, qui allait faire de lui quelqu'un en Chine, et il l'a jeté à la mer. Il a dit, je garde la Bible. Quelle décision. Il est rentré en Chine avec une Bible, il a dit, la meilleure chose que j'ai eue en partant aux États-Unis, c'est rencontrer le Seigneur. Il est rentré avec le Seigneur, alors que tout le monde l'attendait pour avoir une carrière. Et il a vécu quand même dans la persécution par le pouvoir communiste, jusqu'à finir en prison. Il est mort en prison. Et quand il est mort en prison, on allait enlever son corps, et sous son oreiller, il était marqué « Jésus est ressuscité ». Quand je lis son témoignage, je vous invite, franchement, ça donne la chair de poule tellement. Et c'est son texte que je vais vous lire maintenant. Je ne vais pas tout lire, juste quelques passages pour comprendre. Cet homme qui a vécu par expérience ce que c'est que mourir à soi-même, la vie chrétienne, la souffrance. Et il nous parle de ce message que renferme le chapitre, enfin, Marc 4, verset 26 à la fin. Je reviendrai dessus la prochaine fois. Et je préfère aujourd'hui partager avec vous le message de notre frère Watchman Nee. Le titre de son message, c'est « Christ est la résurrection et la vie ». Christ est la résurrection et la vie. Et il se base sur chapitre 11, dans l'évangile de Jean, où il est question de la mort et de la résurrection de Lazare. Et il dit que, au-delà de cette histoire fantastique où tout le monde aurait bien voulu être là pour voir le ressusciter, c'est le message qui, derrière, ça veut dire, chacun de nous, mes frères et sœurs, nous devons vivre cette mort et cette résurrection, et qu'on porte des fruits, tous les jours, dans sa famille, dans son travail, dans la société. Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra. » Quand même, il sera mort. Il serait mort. Le chapitre 11 de l'évangile de Jean nous révèle comment le Seigneur Jésus donne la vie à quelqu'un qui est mort. En d'autres termes, comment il ressuscite un mort? Il avait le pouvoir de ressusciter un mort et il fut le moyen par lequel un homme mort ressuscita. Mais au lieu de dire « Je ressuscite un mort », Jésus déclara « Je suis la résurrection. » Il y a une différence. Peu de temps après cette déclaration, il ressuscita en effet Lazare. Marthe et Marie étaient tous deux présentes ce jour-là, et en considérant leur situation, il lui semblait plus approprié que le Seigneur Jésus leur dise « Ne vous inquiétez pas au sujet de votre frère qui est mort, car je peux le relever de la mort. » Nous aimons entendre de telles paroles. Nous aimons que Dieu fasse toujours plus pour nous, et nous l'espérons. Souvent, nos prières et notre attitude devant Dieu expriment le désir que le Seigneur fasse ceci ou cela pour nous. Cependant, ce que le Seigneur désire particulièrement, c'est que nous réalisions que le plus important n'est pas ce qu'il peut faire, mais ce qu'il est lui-même. Car ce qu'il fait a pour fondement ce qu'il est. Ce que le Seigneur Jésus veut nous dire, c'est non seulement qu'il peut garder la vie de quelqu'un, mais qu'il est lui-même la vie, qu'il peut relever le mort, mais qu'il est lui-même la résurrection. Le Seigneur n'apporte pas la résurrection, il est la résurrection. Et nous l'avons, cette résurrection, par notre communion avec lui dans l'Esprit. Demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir ce que le Seigneur est en lui-même. Il nous faut voir que dans la pensée de Dieu, Christ est tout pour nous. Avec une telle compréhension, nous ferons de réels progrès dans le domaine spirituel. Cherchons le Seigneur au lieu de chercher ce qu'il fait. Il est plus riche de ce qu'il nous donne. Le thème de Jean 11 ne consiste pas à nous montrer comment le Seigneur Jésus ressuscita Lazare, mais bien plutôt comment lui-même fut la résurrection pour Lazare. Qui est Jésus pour nous? Est-il seulement celui qui fait des choses? Ou est-ce qu'il est carrément la résurrection en nous? Voyons-nous toute la différence? Le Seigneur est la résurrection, parce qu'il était la résurrection pour Lazare, Lazare ressuscité. Il n'a pas donné à Lazare quelque chose appelé résurrection, mais il fut lui-même la résurrection par Lazare. En d'autres termes, le Seigneur n'accomplit pas d'une manière extérieure ce qu'il était en substance dans sa personne. Ce disant, nous ne suggérons pas que le Seigneur Jésus n'a pas relevé Lazare. Bien sûr qu'il l'a relevé, mais il s'est révélé à lui comme sa résurrection. Et cette révélation a ressuscité Lazare. Beaucoup de gens peuvent croire que le Seigneur Jésus est celui qui donne la vie. Mais croire qu'il est la vie, c'est une autre affaire. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Il n'est pas seulement le donateur de la vie, il est aussi la vie. Il est à la fois la vie qu'il donne et celui qui donne la vie. Il est à la fois le Seigneur de la résurrection et la résurrection même. Dès que nous voyons cela, nous comprenons instantanément que tout ce qui est en Christ est vivant. Ce que Dieu donne aux hommes, c'est Christ lui-même. Rendons-nous compte de ce grand cadeau que le Père donne à nous. Il donne son propre Fils en entier. Il sait ce que nous avons. Je suis la résurrection et la vie, déclare notre Seigneur. La résurrection et la vie englobent toute la Bible. Connaître la résurrection et la vie est donc une question d'extrême importance. Nous allons continuer à nous contenter de recevoir des choses du Seigneur ou, une fois pour toutes, accepter qu'il s'est donné entièrement à nous. Tout dans le christianisme peut être contrefait. Une fausse repentance, une fausse conversion, un faux zèle, un faux amour. On peut aussi contrefaire l'activité du Saint-Esprit. Et même contrefaire la vie. Combien de chrétiens considèrent que les bons sentiments sont la vie? Ils estiment qu'une atmosphère chaleureuse et qu'une voix puissante sont pleines de vie. Ils ne peuvent pas faire la distinction entre la vie et les sentiments, ne sachant pas que la première chose est plus profonde que la seconde. Vous pouvez ressentir une forte émotion en rencontrant une certaine personne, mais ne rencontrer la vie que dans quelqu'un d'autre. Beaucoup de frères prennent pour de la vie certaines de leurs sensations. mais leur vie doit porter des fruits. Mais ceux qui ont appris savent bien qu'il n'en est pas ainsi. Beaucoup considèrent que certaines pensées en eux sont la vie. Mais les croyants expérimentés et les croyants matures pourront dire qu'il n'y a aucune vie en cela. Deux frères peuvent partager le même point de vue et interpréter un passage de la même manière. Mais cependant, pour des chrétiens matures, il y a toute une différence entre ces deux frères. L'un d'eux n'a seulement que la pensée et le sentiment, tandis que l'autre exprime la vie par des fruits. Il y a tellement de gens qui pensent que parce qu'ils disent les mêmes paroles, parce qu'ils ont pris l'habitude d'aller à l'église, ils font partie de la même réalité spirituelle. Mais ce n'est pas vrai. Il est possible que ces mêmes paroles restent dans le domaine de la pensée. Pour l'un, et qu'elle les exprime la vie pour l'autre. « Je suis la vie, » dit le Seigneur. La vie n'est donc pas quelque chose en dehors de Christ. C'est Christ lui-même, et on ne peut pas avoir cette vie sans communion avec le Christ. Si elle n'est qu'une chose, elle est morte. La vie, dont beaucoup de chrétiens parlent, souvent n'est qu'une chose, alors que le Seigneur nous appelle à la communion. Nous avons vraiment besoin de la grâce du Seigneur dans ce domaine. Demandons au Seigneur de nous faire voir ce qu'est réellement la vie. Et un jour, lorsque cette révélation nous sera accordée, nous connaîtrons tout naturellement ce qu'est cette vie, alors nous pourrons toucher le Seigneur réellement. Christ est la résurrection. Considérons une fois encore la résurrection. Ce qui a été confronté à la mort et qui a survécu est appelé résurrection. Tout ce qui ressurgit vivant de la mort est résurrection. La mort est venue dans l'homme lorsqu'il mangea le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Depuis lors, l'homme n'a jamais pu résister à la mort. Tous ceux qui ont été ensevelis dans les tombeaux n'en sont jamais revenus. Pour l'homme, la mort est un aller sans retour. Dans tout l'univers et parmi un nombre incalculable de personnes, il ne s'en est trouvé qu'un seul qui, passant par la mort, en soit ressorti. Et cette personne, nous la connaissons, c'est encore une fois notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Seigneur de la résurrection. La résurrection parle de ce qui est passé à travers la mort, mais qui n'a pas pu être retenu par elle. La Bible emploie le terme « retenir » pour décrire le pouvoir de la mort. Ceux qui entrent dans la mort ne peuvent pas en ressortir parce que la mort retient solidement tout ce qui y est entré. Mais la mort n'a pas pu retenir Christ. C'est ce qui caractérise la vie et la résurrection. La résurrection est la vie qui a été placée dans la mort et qui vit pour toujours. Jésus, notre Seigneur, est la vie parce qu'il est passé par la mort. Étant entré dans le séjour des morts, le lieu le plus profond de la terre. Mais cependant, il en est sorti vivant de la mort. C'est notre chemin, c'est le chemin de tout chrétien. On ne peut pas passer à côté si notre vie sera vacillante. Et c'est cette vie-là qui est appelée résurrection. La vie qui porte les marques de la mort et qui cependant est toujours vie s'appelle résurrection. Très peu de personnes, en lisant Jean chapitre 20, se demandent pourquoi le Seigneur Jésus, après sa résurrection, portait toujours les marques des clous dans ses mains et celles de la lance à son côté. Était-ce uniquement à cause de Thomas qui voulait voir pour croire? Nous croyons que c'est là la signification de la résurrection. Le Seigneur ne désirait pas enseigner à Thomas qu'il avait été frappé et qu'il était mort, mais qu'il avait été frappé et que pourtant, maintenant, il était vivant. Il porte sur son corps les marques de la mort. Cependant, il est vivant. C'est ce qui s'appelle la résurrection. Cela devrait être aussi vrai pour nous. Il y a dans nos vies beaucoup de choses qui ne portent pas les marques de la mort. C'est pourquoi elles ne peuvent pas être qualifiées de résurrection. Ce n'est que ce qui porte les marques de la mort et qui vit, qui peut être appelé résurrection. Ne pensez pas que tout va bien pour vous si vous êtes éloquent, intelligent et habile. Il vous est tout à fait possible d'avoir de l'éloquence, d'avoir du savoir, d'avoir de l'intelligence et de l'habileté, sans porter les marques de la mort. Les gens considéreront que la résurrection est une chose importante si les marques de la mort sont sur votre éloquence, votre intelligence et votre habileté. Votre vie doit refléter la mort qui est en vous. Sinon, il n'y a pas de résurrection. Un frère peut avoir du talent et beaucoup de capacités. Il semble être très vivant. Pourtant, son talent ne porte pas l'empreinte de la mort parce qu'il se confie en lui-même. Il croit qu'il ne fera jamais d'erreur et qu'il est assuré du succès dans tout ce qu'il entreprendra. Cette personne a beaucoup confiance en elle, en elle-même, de l'assurance et du dynamisme, mais elle ne porte pas les marques de la mort. Donc tout ce qu'elle est n'est pas résurrection. Dans sa lettre à l'église de Corinthe, Paul fait cette déclaration. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 3. Ce sont les paroles de quelqu'un qui connaît vraiment Dieu. N'est-il pas tragique qu'il y ait tant de personnes aussi sûres d'elles-mêmes parmi les croyants aujourd'hui? Mais en 1 Corinthiens 2, 3, nous voyons un homme qui se reconnaît faible, craintif et tout tremblant. Nous voyons là les marques de la mort dans son corps. La résurrection et la croix sont donc inséparables. La croix élimine les choses qui procèdent de nous-mêmes, qui n'ont aucune existence dans notre marche avec le Seigneur. De nombreux frères et sœurs posent souvent cette question. Comment puis-je savoir que je suis mort? Comment savoir si la croix a accompli son œuvre en moi? La réponse est très simple. Si le Seigneur a œuvré dans votre vie, vous aurez perdu certaines choses. Si vous êtes resté inchangé depuis le jour où vous avez été sauvé, cela montre clairement que la croix n'a pas œuvré en vous. Il s'agit bien, mes frères et sœurs, de fruits apportés. Si la résurrection se manifeste dans votre vie, certaines choses ont dû rester dans le tombeau, car ces choses ne peuvent pas ressortir de la mort. Tout ce qui est adamique ne peut revivre après avoir traversé la mort. Mais la vie du Seigneur est capable de passer par la mort et d'en ressortir de nouveau. C'est cela, la résurrection. Lorsqu'une personne est touchée par Dieu, en étant traitée par sa croix, elle devient faible, craintive et tremblante. Elle n'ose pas dire « je peux » ou « je ferai ». Elle continuera à faire son travail, mais en ayant en elle la crainte de Dieu. Elle pourra marcher, mais elle marchera selon Dieu, comme Abraham, qui suivait Dieu pas après pas, conservant dans sa vie la marque visible de la croix. Cette personne a été touchée par Dieu. Elle n'est plus la même. Elle porte l'empreinte laissée par la mort. Cela s'appelle résurrection. L'apôtre Paul sur la route de Damas, il n'a pas demandé au Seigneur ce que veux-tu que je fasse. Il lui a dit d'abord, qui tu es? Dans le domaine spirituel, nous sommes confrontés à un problème difficile. En effet, souvent les gens servent Dieu avec des moyens naturels, au lieu de le faire avec des moyens ressuscités. Beaucoup ont du zèle, mais peu ont un zèle ressuscité, un zèle qui est passé à travers la mort et qui est ressuscité. Quelques-uns demanderont, qu'est-ce que le corps de Christ? Le corps de Christ est là où la résurrection de Christ est attestée. En d'autres termes, tout ce qui n'est pas de la résurrection n'a pas de part, aussi petite soit-elle, au corps de Christ. Beaucoup de frères demandent comment l'Église peut être une. Nous devons réaliser combien il est vain de chercher à parvenir à l'unité avec des moyens humains. Les enfants de Dieu ont besoin de connaître la croix, de traiter la chair et ce qui est naturel afin de manifester cette unité. Aucune méthode n'est efficace à moins d'expérimenter ce qu'est réellement le calvaire. Aucun problème dans l'Église ne peut être résolu par des procédés humains et de l'ingéniosité. L'Église ne supporte ni la chair, ni ce qui est naturel, car les deux causeraient des dommages. Il est tout à fait vrai que l'Église a besoin de la contribution du ministère des hommes. Cependant, ces hommes doivent porter en eux l'empreinte de la mort. L'utilité avec la marque de la mort s'appelle résurrection. Le Seigneur est lui-même la résurrection. Et ils désirent avoir une Église ressuscitée. Si nous désirons expérimenter cela, il nous faut alors regarder à Dieu pour qu'il accomplisse son œuvre dans nos vies. Cherchons le Seigneur à titre individuel. Cherchez à savoir qui il est et nous découvrons ce qu'est la résurrection. Peut-être sommes-nous familiarisés avec beaucoup d'enseignements, mais si nous n'avons pas encore reçu le coup fondamental de la part du Seigneur, nous resterons les mêmes. Quelquefois, nous glissons et tombons. Nous souffrons, bien sûr, mais cela ne dure que quelques jours ou quelques mois. Mais si nous avions reçu le Seigneur, mais si nous avons reçu du Seigneur le coup fondamental pour être suffisamment brisés, nous ne souffrirons pas seulement quelques jours ou quelques mois. Nous ressentirons les effets de cette blessure toute notre vie durant. Nous serions boiteux pour toujours devant Dieu et la marque de la croix serait toujours sur nous. Bien des années après que Paul ait reçu la vision sur le chemin de Damas, il témoignait « C'est pourquoi je ne fus pas désobéissant à la vision céleste. » Acte 26, verset 19. Si le Seigneur nous fait grâce et nous frappe un jour avec sévérité, notre vieux moi ne pourra plus se relever de nouveau. Il faut le savoir, il faut le vouloir et il faut le désirer. La blessure demeurera en nous à jamais, puisqu'il est toujours possible de toucher ou de voir en Christ ressuscité la plaie causée par les clous dans ses mains et par la lance de son côté. Les marques de la croix ne s'effaceront jamais dans la vie de tous ceux qui aujourd'hui connaissent le Seigneur comme la résurrection. C'est cela, porter sa croix tous les jours et suivre le Seigneur. Si nous expérimentons cette blessure, nous n'oserons plus jamais nous glorifier de ce que nous sommes, ni de notre puissance. Une fois que nous aurons été frappés par le Seigneur, nous ne nous relèverons plus jamais. Puissent les marques de la croix devenir de plus en plus évidentes dans nos vies. La prétention n'est d'aucune utilité dans ces choses, car ce qui est placé de nous-mêmes sur l'autel sera bien vite oublié. Mais lorsque le sacrifice est placé sur l'autel et mis à mort, il ne se relève plus jamais. Si nous avons reçu ce coup fondamental, nous réaliserons que nous ne sommes rien et incapables et bien limités. La marque de cette mort en nous témoigne de la connaissance que nous avons de la résurrection, de la vie. Connaître la croix, c'est connaître la résurrection. Ce qui demeure après être passé par la croix, c'est bien la résurrection. Et il termine. Prions afin de pouvoir vraiment connaître Christ comme notre résurrection et comme notre vie. Que le Seigneur enlève beaucoup de ce qui est nôtre. Que la conséquence ne soit pas uniquement pour nous d'avoir plus de sa vie, mais aussi moins de nous-mêmes. Bien souvent, nous vivons de ce qui est naturel sans connaître la discipline de Dieu, ni la croix. Nous avons besoin de prier que le Seigneur nous fasse miséricorde, afin que ce qui est naturel diminue en nous, peu à peu, pour que se manifeste de plus en plus ce qui est ressuscité en nous, c'est-à-dire Christ en nous. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je tenais vraiment à partager avec vous cette lecture, je l'ai lue plusieurs fois. Et cet homme a vécu jusqu'à dans sa chair la souffrance. Mais il rayonnait de joie. Il avait la vie, il témoignait. Une anecdote, quand il parlait du Seigneur dans les villages, il était poursuivi. Et en le poursuivant, d'autres avec lui qui avaient accepté le Seigneur se sauvaient de village en village. Ici, on aurait dit, prions pour eux et qu'on arrête de les persécuter. Coachman dit, c'est une grâce. En nous courant derrière, il nous obligeait à annoncer le Seigneur. dans le plan de Dieu, a voulu cette épreuve-là pour que la parole de Dieu passe de village en village. En courant derrière eux, la bonne nouvelle était annoncée. Voilà le message que nous laisse ce frère Otchmani en mettant la croix au centre, une croix qui nous transforme, une croix qui nous fait rentrer tous les jours dans cette transformation, portant des fruits autour de nous, et on connaît petit à petit l'obéissance envers notre Seigneur, et qui nous amène jusqu'au point d'aimer ceux qui nous rejettent. Que Dieu vous aide. Amen.